When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Trois médailles pour un dimanche royal. La délégation française nous a régalé aujourd'hui avec en point d'orgue ce nouveau titre pour Quentin Fillon-Maillet sur la poursuite en biathlon. Nous débuterons évidemment ce podcast avec l'or olympique du Jurassien. On enchaînera avec le bronze de Mathieu Fèvre sur le géant. Le français champion du monde en titre de la discipline a su sortir les deux manches qu'il fallait au meilleur des moments de sa saison. Et on terminera avec une troisième médaille en bronze sur le relais pour les fondeurs, comme à Sochi, comme à Pyeongchang. Ils nous ont encore apporté une belle breloque. Pour ce beau programme, nous accueillons Maxime Dupuis et Laurent Vergne. Salut à tous les deux.
Salut Adrien. Salut.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti. On ne sait plus quel superlatif employer pour qualifier les performances de Quentin Fillon-Maillet. Une nouvelle médaille décrochée pour le Jurassien sur la poursuite. La deuxième en or, la quatrième au total, c'est exceptionnel. Le mot n'est pas trop fort pour qualifier ces Jeux Olympiques. Et pour en parler, on accueille notre consultante Florence Bavrel. Flo, que dire sur Quentin qu'il n'ait pas déjà été dit ?
Rien.
Merci Flo.
Merci.
Non, mais c'est vrai qu'il a quand même encore été impressionnant. C'est surtout ce 20 sur 20 qu'il arrive à sortir aujourd'hui, hein, dans des conditions vraiment difficiles où... Voilà, il y en a eu un autre avec Hofer, mais bon, il n'était pas en tête, hein, Hofer, donc c'est beaucoup plus difficile à sortir quand on est devant. Et puis, voilà, moi, je reviens un peu sur cette malchance de Johannes quand même, sur le premier debout. Bon, ma foi, fallait quand même aller chercher le 20 pour Quentin. Mais ouais, au niveau des superlatifs, ouais, on ne sait plus, on a déjà tout épuisé, tout dit. Et il a encore été super fort aujourd'hui, même si sur les skis, il était moins bien que Johannes. Hein. Johannes était au-dessus du lot, dans des conditions qui étaient encore difficiles, encore lentes, avec la neige qui était tombée, une neige super sèche. Mais à aucun moment, il s'est démobilisé, Quentin. Même quand il a eu un petit incident de tir, là, il y a eu quelque chose qui l'a gêné. Il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait avec des grosses moufles, hein, parce qu'il fait froid. On l'a vu énervé. Moi, sincèrement, j'ai eu peur quand même que, voilà, qu'il reste dans cet état de stress, d'énervement, et pas du tout. Il a mis ses 5 balles au fond juste derrière, donc solide le Jurassien.
Moi, c'est vraiment l'image que je garderai de ce jour. C'est justement quand il arrive sur le deuxième pas de tir et qu'il a le problème avec sa carabine, et on sent qu'il est un peu... comme s'il a été un peu rattrapé, on va dire, par le stress et par l'énervement, ça se sent. Et puis, d'un seul coup, dès que c'est réglé, il se met en position et puis c'est parti. Et puis, il blanchit les cinq cibles. Donc, c'est formidable. Et surtout, dans les conditions atmosphériques, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je m'amusais pendant les tirs à regarder justement le petit anémomètre. Et justement, sur le troisième tir de Beu, ça passe quasiment de 10 mètres secondes à 3 dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour trouver la stabilité, ça doit être un enfer absolu. Mais en tout cas, ouais, voilà, il y en a eu deux qui ont réussi, dont Quentin Fillon-Maillet, qui était, bah, évidemment, comme tu as dit, il n'y a plus de superlatif, c'était formidable.
C'est à ce moment-là, hein, le tournant, est, effectivement, on parle du 20 sur 20, mais les trois fautes de Johannes Beu lors de son troisième tir, Laurent, c'est là que ça s'est joué.
Oui, forcément, mais moi, sa course, c'est un chef-d'œuvre, hein, 20 sur 20, comme ça, en poursuite, c'est exceptionnel, mais moi, c'est peut-être sur les deux premiers tirs couchés qui m'a le plus impressionné, parce que il a perdu beaucoup de temps quand même au départ. Il est parti avec 25 secondes de retard et très vite, Johannes Beu a creusé l'écart. Donc, quand il arrive sur le premier coucher, il a déjà une énorme pression parce que Johannes fait 5 sur 5 et il sait que s'il en rate ne serait-ce qu'une, bah, c'est jamais fini, hein, mais il se serait retrouvé à plus d'une minute. Enfin, ça aurait été très, très compromis. Là, je l'ai trouvé très solide. Et puis après, effectivement, ce deuxième coucher où il a ce problème, je ne sais pas exactement d'ailleurs ce que c'était quoi, Florence, la nature du problème.
Bon, comme s'il y avait une douille qui l'empêchait, enfin voilà, qui gênait en mettant son chargeur, quoi. Hein,
parce qu'après, on n'a
pas vu, ouais. Voilà, on n'a pas vu la douille, voilà, on l'a pas vu tomber, mais ça ressemblait à ça, quoi, qui gênait en tout cas le chargeur pour qu'il monte.
Et c'est vrai que là, on a senti sur son visage, je dirais peut-être pas de la panique, mais vraiment un énorme coup de stress. Et là, arriver à sortir les cinq balles comme ça, dans ce contexte-là, c'était vraiment énorme. Alors après, oui, évidemment, sur les deux tirs debout, il a été énorme. Mais moi, c'est presque dans cette première partie de course où il aurait pu être complètement décroché qui m'a le plus impressionné. C'est vraiment... ouais, moi, je suis quand même bluffé de ce qu'il arrive à faire et la façon dont il arrive à enchaîner quand même, surtout parce que physiquement, d'abord, il n'a pas fait d'impasse, même s'il a zappé un ou deux relais, mais sur les courses individuelles, il les a toutes faites cette année, alors que presque tous ses concurrents ont fait une impasse sur carrément une étape de Coupe du Monde au mois de janvier, pas lui. Et puis même, voilà, il pourrait être pris dans un tourbillon avec ses médailles, ses titres qui s'enchaînent, et non. Il reste vraiment concentré sur ce qu'il a à faire et peut-être aussi le fait d'être un biathlète trentenaire, d'avoir beaucoup de vécu. Peut-être que ça l'aide aussi à gérer tout ça, même si on l'a jamais vu à ce niveau-là dans une compétition comme les Jeux ou les Championnats du Monde. Mais c'est pas un jeune, c'est pas un bleu, Quentin. Donc peut-être que ça l'aide, mais moi je suis quand même vraiment épaté par tout ce qu'il accomplit. Et aujourd'hui, c'était vraiment... Il a réussi à avoir son sommet des Jeux aujourd'hui, alors qu'il avait quand même déjà 3 médailles, dont un titre. C'est quand même énorme.
J'écris mon histoire. J'écris l'histoire du biathlon de la France. C'est incroyable, a-t-il dit au micro de Géraldine Weber à l'issue. C'est-à-dire qu'il est quand même conscient aussi qu'il est en train de marquer l'histoire du biathlon sur les Jeux Olympiques déjà. Laurent, on en parlait, 4 médailles dans une même Olympiade pour un athlète français. Ouais. C'est plus que très fort.
Non, aujourd'hui, il a écrit à la fois l'histoire du sport français et du biathlon. Donc sur le biathlon, il faut savoir qu'avant les Jeux de Pékin, il n'y avait que Ole Einar Bjørndalen qui avait réussi à avoir plus de 3 médailles dans une même édition des Jeux. Et là, il y en a 2 qui l'ont rejoint en l'espace de à peine 2 heures. C'est Roysland et Fillon-Maillet. Alors, il faut rappeler quand même quelque chose, c'est que Bjørndalen, lui, il n'avait pas de relais mixte, il n'avait pas la mass start non plus quand il l'avait fait. Donc, c'était vraiment encore plus exceptionnel. Et lui, il avait fait 4 médailles d'or en plus. Mais ça reste quand même une page d'histoire. Et puis, c'est le sport français. Voilà, première fois depuis 1924, jeux d'été ou d'hiver confondu, qu'un sportif français parvient à avoir au moins 4 médailles dans une même édition des Jeux. Donc, c'est quand même... Oui, le biathlon permet d'avoir beaucoup de médailles, mais je rappelle que même un géant comme Martin Fourcade, qui a marché sur son sport pendant près de 10 ans, s'est arrêté 2 fois à 3 médailles, à Sochi et à Pyeongchang. Et puis, il y a plus de 100 sportifs ou sportives, jeux d'été, jeux d'hiver, qui depuis 1924, des sportifs étrangers, avaient réussi dans n'importe quel sport à avoir au moins 4 médailles. Mais il n'y avait jamais eu un Français. Donc, je veux bien qu'on me dise, oui, le biathlon, ceci, cela. Non, c'est une performance qui est ahurissante et il lui reste 2 courses. C'est ça qui est encore plus incroyable. Il peut faire 5, voire 6.
Mais c'est pas parce que tu as plus de chances d'en gagner que c'est plus simple, voilà, tout simplement. Et il y a toujours autant d'adversaires au départ. Donc, c'est vrai que c'est un morceau d'histoire. Il faut bien peser ce qu'on a vu et ce qu'il réussit depuis 8 jours. 8 jours, 4 courses, 4 médailles. C'est exceptionnel. Et dans l'histoire des Jeux d'hiver pour les athlètes français, il n'est que le quatrième avec Maurice Magnifica aujourd'hui, a glané 4 médailles. Donc, c'est exceptionnel. Il faut vraiment peser les mots et dire que ce qu'il est en train de faire. Et
lui, il le fait en 8 jours.
On parle de légende. Oui, en 8 jours. Vous imaginez, en 8 jours. Qu'est-ce que vous avez fait lors des 8 derniers jours? Lui, il a gagné 4 médailles.
Florence, sur ouais, ça, tu es ouais, impressionné ouais. aussi, j'imagine.
Ouais, ben, c'est vrai que quand il a décidé quelque chose, hein, c'est propre à Quentin. Et on a vu après son sprint, donc il parlait déjà de cette poursuite et d'aller chercher justement ce record-là d'entrer dans une légende. Et voilà, il est impressionnant. Il décide, il fait, il ne se met pas la pression pour autant. C'est ça qui est. Voilà, je ne sais pas comment il fait ça, lui. C'est propre à Quentin, quoi. Ça le sublime, ça le. Et moi, je reviens un peu sur sa gestion de course où je suis. Voilà, j'ai pas peut-être la même lecture que Laurent, mais moi, je pense qu'il s'y attendait à ces 2 premiers tours où Johannes, hein, il part toujours très fort. Donc, à mon avis, voilà, il devait s'y attendre que cet écart, il allait être maintenu.
Mais il perdait beaucoup quand même. C'est que Johannes lui prenne du temps, oui, ce n'était pas une surprise. Mais là, je trouve que…
C'est vrai.
Il y avait 50 secondes avant le deuxième tir quand même. Ça voilà. Devenait,
Bon, c'est vrai que ça met la pression, mais il faut faire passer ses tirs couchés, bien sûr. Mais pour moi, il est plus fort quand même debout que Johannes. Donc, il devait attendre avec impatience ses tirs debout aussi. Quoi. Donc, je pense qu'il a très bien géré sa course et ça s'est passé un peu comme il l'avait prédit, même s'il ne pouvait pas prédire ce vent. Hein, mais on sait que Johannes, il est quand même plus fragile sur le pas de tir.
On ne peut pas s'arrêter là. On est obligé de parler de la suite parce qu'on le disait, il marque l'histoire. Il peut encore davantage marquer l'histoire. Flo, la mass start, le relais, à chaque course, on n'arrête pas de se dire « il ne va pas s'arrêter là, il ne va pas s'arrêter là ». Est-ce que vraiment, il va continuer sa moisson ?
Ouais, ben voilà, on ne sait pas, mais c'est vrai que voilà, Quentin, c'est quelqu'un qui arrive à bien enchaîner les courses hein, au niveau récupération. Lui, plus il y a de courses et mieux ça va par rapport à d'autres. Donc, voilà, en tout cas, si ce qu'on sait s'avère encore vrai sur ces JO, il sera encore présent. On voit quand même qu'il y a lui et Johannes hein, sur ces JO. Et à mon avis, ça va se jouer encore entre les deux. Hein. Et on voit vraiment aujourd'hui, après le cinquième, je crois, ça passe à 2 minutes. Hein, énormes écarts. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est des courses de costaud quand même. Avec l'enchaînement des courses, ils seront encore devant. Hein. C'est les deux, que, voilà, comme je viens de le dire, qui se détachent. Avec la Mass Start, c'est quand même la course pour moi la plus difficile, hein, où il y a plus de ski encore que sur la poursuite. Et puis en confrontation, ouais, ça va être sympa. Et je pense que voilà, il a à cœur encore de marquer encore plus l'histoire. Hein, et s'il le décide, bon, ça risque de faire encore mal. Mais voilà, c'est un peu. Par contre, sur les skis, hein, il en manque quand même un peu par rapport à Johannes. Johannes, je pense, ça a dû quand même bien l'énerver hein, de ne pas avoir de chance aujourd'hui aussi. Donc on va voir comment il réagit après ce coup de malchance. Donc aussi à voir comment il sera aussi.
Et puis sur le relais, tout ne dépendra pas que de Quentin. Il aura pas, voilà, il sera le dernier relayeur. Donc peut-être que ce sera à lui d'aller chercher l'or ou le podium, mais peut-être aussi, si ça ne se passe pas bien, on ne le souhaite pas évidemment, mais qu'il récupérera le relais quasiment sans avoir de chance ou de titre ou de podium si c'est vraiment la cata. Et après, la mass start, la grande question, ce sera qu'est-ce qui lui restera comme jus, quoi. Voilà, parce qu'on sera au bout de la quinzaine olympique, et il aura forcément beaucoup donné et physiquement et émotionnellement. Donc, ce sera peut-être la course indiv la plus difficile pour lui, mais de toute façon, je ne vais pas dire peu importe, parce qu'il y a encore 2 médailles à aller chercher, c'est pas rien. Mais il pourrait rentrer chez lui aujourd'hui, Quentin, et ses jeux seraient déjà. On l'avait dit après son titre sur l'individuel. Je crois que c'était Loïs qui était avec nous ce jour-là dans le podcast. Et on avait dit que ces jeux sont déjà de toute façon une très grande réussite. Ils peuvent devenir historiques. Donc maintenant, ils sont devenus historiques. Alors maintenant, ils peuvent devenir quoi ? Légendaires, peut-être. Voilà. Mais c'est que du bonus, même si la formule est d'une très grande banalité. Mais c'est vrai.
Alors pour revenir sur le relais, c'est vrai qu'il y a ces médailles hein, qui. Voilà, on ne parle que de ça, on est focalisé là-dessus, c'est les JO. Mais c'est vrai que. Au niveau de l'ensemble du collectif des Français, c'est quand même en dessous de des attentes hein, par rapport à ce qu'ils ont déjà montré, les Français. Donc, ouais, un peu de déception quand même. Hein, on ne va pas se le cacher pour les autres Français. Émilien, Simon et puis Fabien. Donc, pour le relais, ouais, c'est quand même pas gagné pour le podium. Mais en tout cas, il n'y a pas non plus de 50 équipes où il y a 4 gars qui sont forts. Donc, ils peuvent aller chercher quelque chose, mais voilà, je voulais voilà, parler un peu des autres quand même, parce que ouais, c'est des jeux ouais, qui ne sont pas très réussis pour eux quand même. Pour
et
le
tu,
moment.
Penses que, après ce qu'on a vu ce week-end, là, l'enchaînement du sprint et de la poursuite, que on en avait parlé, hein, la possible menace sur Emilien, si c'était une cata absolue, finalement, son week-end est. Bon, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il espérait, mais il n'est pas catastrophique. Hein. Il fait 2 top 10, je crois, sur sprint et poursuite.
Oui, ouais, ouais, c'est ça.
En revanche, ça a été compliqué pour Fabien aujourd'hui. Le relais, tu penses que les positions sont figées ou qu'il est possible qu'il y ait une surprise dans la composition ?
Ouais, moi, je dirais que ça sera qu'on retrouvera ces 4-là. Mais bon, à moins qu'il y en ait un vraiment qui se sente
ouais,
pas
qui
du
de
tout,
lui-même,
mais...
oui.
voilà, se disent je sens pas, mais je vois pas comment on peut enlever un Emilien, hein, qui est quand même un des piliers de cette équipe là. Simon, qui est quand même voilà, avec l'expérience, hein, qui a fait une belle remontée aujourd'hui quand même. Et puis Fabien, hein, par rapport à Antonin, ouais, moi je laisserai quand même ces quatre là. Hein, c'est surtout que les autres ont pas de repères, hein, finalement cette fois aussi. Ouais. On l'a vu, elle a surpris cette course, hein, pour la première fois qu'ils l'ont fait en course. Donc ouais, voilà. Et pareil chez les filles, hein, c'est compliqué de mettre des remplaçantes, hein, qui enlever, quoi. Ouais.
On suivra ça. Fabien Claude, Simon Détieux, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. C'est mardi à 10h, le relais à suivre sur Eurosport. Et la Mastart, ça sera vendredi en point d'orgue de cette quinzaine olympique pour les hommes. Merci Flo, parce que je sais que c'est tes derniers jours avec nous. Tu vas être remplacé par Sandrine Bailly. Tu nous as régalé. Tu nous as vraiment un grand merci pour toutes ces analyses et le temps que tu as passé avec nous sur l'Euro Olympique.
Ah, c'est toujours un plaisir de parler du biathlon. Hein. On reste passionné à vie, je crois.
Merci c'est beaucoup. Sûr.
Merci. Allez, merci. Merci, à plus tard. À la première médaille de bronze pour l'équipe de France est venue du ski alpin. Mathieu Fèvre a décroché donc une belle troisième place sur le géant. Pour en parler, on accueille Maxime Dupuis, Laurent Vergne et notre consultant Gauthier de Tessière qui a commenté la course aux côtés de FX Rally. Gauthier, c'est une belle médaille, c'était bien embarqué, une belle première manche, une belle deuxième manche. On a retrouvé le Mathieu Fèvre qu'on aime.
Ah, il est de retour, il est de retour. C'était pas gagné au vu des premiers résultats de la saison. Mais comme l'an dernier, Mathieu nous a fait le même coup que l'an dernier sur les championnats du monde. Il a un début de saison compliqué. Et puis, au mois de janvier, il repart à s'entraîner pendant quelques semaines. Il retrouve des couleurs. Il arrive ici avec l'ambition de ramener une médaille. Et là, il nous colle deux belles manches. C'était des conditions difficiles. Il est allé la chercher. On est très heureux de cette médaille. Et franchement, on aurait signé directement ce matin parce que ce n'était pas gagné pour Mathieu. Donc, super médaille pour le clan français. Ouais.
Messieurs, vous qui avez suivi la course également, vous avez été étonnés de voir cette performance de Mathieu Fèvre ou on pouvait s'y attendre?
Non, étonné, non. D'abord, moi, j'ai trouvé que c'était une course formidable. La deuxième manche était incroyable. C'était un tracé très dur, très tournant. Et on a eu beaucoup de sorties. Beaucoup qui ont failli sortir aussi. Je ne sais pas comment Christoffersen, par exemple, a pu rester debout, même si ça lui a coûté le podium. Donc, c'était vraiment un super, super géant. J'ai adoré. Et après, non, on le sait, c'est un petit peu comme à Pyeongchang. Il y a eu, je crois, 4 Français dans les 7 premiers, avec une médaille de bronze pour Alexis Pinturo. Bah là, c'est un petit peu pareil, 3 dans les 5 premiers, et avec une médaille de bronze à l'arrivée. Donc, si ça s'était bien goupillé, on aurait pu espérer avoir mieux, mais l'important, je pense, pour l'équipe de France, c'était d'avoir une médaille. Et après, que ce soit Mathieu Fèvre, non, ce n'est pas forcément étonnant, même si c'est vrai que cette saison a été assez compliquée pour lui, même si on l'avait vu très fort sur certaines manches, notamment, je crois que c'était Altabadia où il avait fait le meilleur temps de la première manche, ouais, avant de coincer complètement dans la deuxième. Et puis, c'est un homme de grand rendez-vous aussi, quand même. Enfin, là, il a été double champion du monde l'année dernière. Donc, non, moi, ça m'aurait vraiment frustré pour ce groupe que ça finisse 4-5-5 ou 4-6-6. Ça aurait été vraiment très, très dur. Donc, c'est bien pour Mathieu Fèvre qui manquait une médaille olympique pour lui. Et puis, mais vraiment, presque au-delà de ça, je retiens le sac de Dermatt et puis la deuxième manche complètement folle de Kraniec. Et puis, globalement, cette course qui a été top, c'est un des grands moments des Jeux pour moi.
Ouais, ça valait le coup de la reporter, j'allais dire, à 8h du matin. Il y a plus de monde sûrement devant la télévision. Et c'est vrai que c'était très sympa parce que voilà. Et il y a quelque chose dont je voudrais parler avec Gauthier, c'est justement les conditions. On a beaucoup parlé des conditions à Pékin, sur ce roc qui n'est pas enneigé normalement. Et là, la neige est arrivée, le soleil a disparu, on s'est retrouvé dans le brouillard. Et ça a rendu, c'est sûrement ça aussi qui a rendu la course un peu folle et même beaucoup. Comment on s'adapte à ça, Gauthier? Parce que j'imagine que les skieurs qui sont arrivés n'avaient pas en tête qu'ils allaient se retrouver dans des conditions comme ça au bout d'une semaine. Et là, ça leur est tombé dessus. Comment on fait pour s'adapter à ces conditions difficiles?
T'as raison, c'est quand même un fait de course assez incroyable. Quand je regardais un petit peu les statistiques de chute de neige en Chine, c'est 30 cm de moyenne. Là, on a pris 30 cm en une nuit. Donc là où tu as raison, c'est que tout le monde a été très surpris, et l'organisation notamment. Ça a été très juste. La première manche a été dans des conditions un petit peu dantesques. La piste était vraiment pas très bien préparé. Enfin, il y avait un fond qui était bon, mais il y avait vraiment des tas de neige partout. C'était très dangereux. Heureusement, l'organisation a vite réagi sur la deuxième et on a eu cette magnifique deuxième manche. Pour s'adapter sur une première manche comme ça, j'ai envie de te dire que les coureurs, ils ont l'habitude. Ce qui était bien aussi chez les Français, c'est qu'on entendait le son de cloche des coachs. C'était vraiment de dire, on s'adapte, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais quoi qu'il arrive, on est prêt à tout. On s'est entraîné dans toutes les conditions et on sait que ça peut être du soleil, de la neige dure, de la neige molle, de la pluie, du vent. Ils étaient prêts à tout, les Français. Ils s'étaient bien préparés. Il fallait être très fort mentalement. Il y avait un Mathieu Febvre qui est une vraie bête de course. Il s'est bien adapté. Les autres Français aussi ont bien assuré. Oui, il y en a beaucoup qui sont partis au tapis. C'est
41,
clair.
Je crois.
41, c'est énorme. 41, c'est énorme, mais c'est ce qui a fait toute la beauté aussi de cette course. C'est que finalement, on regarde, on se retrouve quand même avec un podium de maîtres, avec de vrais géantistes. On a eu un suspense jusqu'au bout. Et au bout, ben, finalement, c'est trois Français qui finissent dans les cinq premiers. Donc, j'ai envie de te dire que pour une fois, les Français, on était bien préparés, on était prêts à toutes les situations. Et les skieurs sont quand même… Oui, toi, peut-être ça te paraît de l'extérieur un peu fou, les conditions, tout ce qui se passe. Mais ils sont prêts. Ils sont prêts à tout ça. Et puis, c'est une discipline de géant. J'ai envie de te dire, il y aurait eu autant de casses en descente. Là, il y aurait eu une tension extrêmement forte au départ. Et ça aurait été compliqué. Mais en géant, bon, bah, voilà, ça passe. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de blessure aujourd'hui. On s'en sort plutôt bien. Mais c'était quand même une course originale. On s'en souviendra.
On s'en souviendra, c'est sûr. C'est de bonne augure pour la suite, pour notamment le team event qui a un tracé un peu qui se ressemble entre guillemets avec un géant. Quand on voit ces résultats des Français, on peut espérer encore de belles choses, non?
On peut espérer une médaille. Hein. C'est en tout cas chez les garçons. Là, on a une team vraiment costaud avec Mathieu et Thibaut qui seront quasiment sûrs d'être au départ. On verra si Alexis s'aligne sur cette discipline-là. Et puis chez les filles, on espère qu'il y aura une belle réaction de Tessa. Elle a coché la case. On espère qu'elle va revenir en forme. On sait qu'elle est un petit peu souffrante. On verra si Coralie ou j'ai perdu son nom de la troisième française. Je suis un peu fatigué. Ça fait 6 heures que je suis debout. Mais voilà, donc on espère que les Françaises aussi seront au rendez-vous. C'est une victoire d'équipe. Hein. Les team events, on ne peut pas juste gagner avec les garçons ou juste avec les filles. Il faudra des belles performances des quatre athlètes qui seront en piste.
On peut pas ne pas évoquer quand même Marco Dormat, quand même, qui était l'archi favori, qui a su résister à ça, à cette pression. C'est quand même encore un jeune skieur et qui a magistralement remporté son premier titre olympique. Il pourrait tout rafler cette année. Le gros globe, le titre olympique, c'est formidable.
Il va tout rafler. Il va tout rafler. La seule incertitude que j'avais, c'était aujourd'hui, hein, parce qu'il avait quand même un gros sac sur le dos. C'était pas simple de porter un pays, sachant que c'est vraiment le maître de la discipline. Donc aujourd'hui, bah écoute, il a ce titre olympique. Le globe du général, je n'ai pas de souci. Le globe du géant aussi, il n'y aura pas de souci, je pense. Donc, ça sera une année parfaite. Aujourd'hui, si on revient vraiment sur la course de Marco Odermatt, c'est maîtrisé. Il n'a pas eu à pousser plus que ça. Il a tenu. Mais voilà, son talent a vraiment fait la différence dans ces conditions. Il aurait pu gagner avec un peu plus de marge, je pense. Mais voilà, ça suffit. C'est un grand champion et il avait besoin de cette ligne-là quand même à son palmarès. Et aujourd'hui, c'est fait. On sentait beaucoup d'émotion d'ailleurs dans sa voix. Il avait besoin de ce titre. Voilà.
Messieurs, on est bon sur le géant pour aujourd'hui. Merci Gauthier de nous avoir éclairé et de nous avoir fait vibrer en tout cas pendant cette course. C'est vrai que c'était super, comme dit Laurent. Un des grands moments de ces Jeux de Pékin, on s'en rappellera longtemps. On passe à la séquence suivante, si vous le voulez bien. Les fondeurs français ont perpétué une certaine tradition aujourd'hui. Après Sochi en 2014 et Pyeongchang en 2018, le relais tricolore a de nouveau décroché la médaille de bronze sur le relais 4x10 km. Les bronzés en question, Richard Jouve, Hugo Lapalu, Clément Paris et Maurice Magnifica. Pour évoquer cette performance, on accueille notre consultant Jeff Deveau. Jeff, une performance solide qui a fait encore rêver.
Oui, alors une performance, je vais pas vous mentir, qui nous mettait un peu dans le doute hein, hier soir, parce que ben, il y avait énormément d'incertitudes. Déjà, le coup de poker de mettre un sprinter, Richard Jouve, même si effectivement il est talentueux, mais de le mettre en premier sur l'amorce du relais. Et puis l'incertitude aussi sur notre dernier relayeur, c'est à l'image de ce que disait le coach, un coup de poker de l'équipe de France, de mettre Maurice Magnifica, qui n'avait rien montré pour l'instant sur ce dernier relais.
Là, pour le coup, il nous a montré une sacrée accélération. On a tous en tête cette accélération de Maurice dans la montée qui a mis tout le monde d'accord.
Oui, c'était son jeu d'ailleurs, hein, puisque bah, il y en avait un trop dans le groupe. Ouais. Ils étaient trois pour deux médailles. Donc, c'est vrai qu'on s'est prêté à rêver quand même à l'argent, pourquoi pas. Et puis, faut pas oublier quand même qu'il était avec tout simplement le meilleur sprinter du monde, Johannes Oslot-Lebø. Et c'était de toute façon l'idéal, le scénario idéal, une accélération énorme avec le Suédois, Johan Ekström, qui n'a absolument pas pu suivre.
Laurent, Maxime, vous avez suivi aussi cette course comme nous. Comment vous avez vécu les choses? On sentait que voilà, Maurice a su faire la différence au bon moment. C'était très serré hein, jusqu'ici.
Non, mais ce qui est formidable avec parler de Maurice Magnifica, c'est que dans la première partie, on a parlé de Quentin Fillon-Maillet, 4 médailles. Bah, c'est aussi 4 médailles pour lui, 4 médailles de bronze, c'est formidable. Ça avait été une saison difficile jusque-là, début de jeu qui allait un peu crescendo, mais ce n'était pas encore ça. Et puis aujourd'hui, le grand jeu au grand moment, parfait. Comment définir, si tu devais présenter Maurice Magnifica au public, qu'est-ce que tu dirais de lui? C'est peut-être dans les quatre dont on a parlé tout à l'heure, qu'ils ont aujourd'hui la 4 médailles d'or, peut-être celui qui est le moins connu du grand public.
4 médailles.
C'est un personnage particulier.
Oui, alors ce n'est pas 4 médailles d'or, mais
4 médailles de bronze.
Juste avant de commencer, je voudrais, pour recentrer un tout petit peu ce qui est l'histoire de notre discipline aux Jeux Olympiques, la première médaille olympique, elle a été simplement remportée en 2006 et c'était sur le sprint par Roddy d'Aragon. La deuxième, c'était un grand événement, c'est la première fois effectivement en relais hein, qu'on avait une médaille en 2014. Les troisième et quatrième, c'était aux derniers Jeux Olympiques et la cinquième, c'est aujourd'hui, et c'est seulement la cinquième, et sur ces cinq médailles remportées dans toute l'histoire du ski de fond, il y en a trois autour du cou de Maurice Magnifica. Donc, c'est pour. Je pense que rien qu'en disant ça.
Il y en a quatre même.
Oui, quatre, pardon, quatre sur les cinq.
Il y en a trop, on en oublie.
Voilà, exactement. Ben oui, donc ça veut dire qu'il était là, et il était là tout le temps. Et donc, ça, c'est vraiment pour situer, bien sûr, la performance de Maurice. Donc, à partir de là, pour le présenter, je dirais, c'est l'homme qui moi, m'a toujours surpris par son assurance. Je vais juste vous raconter la première fois où il est monté sur un podium. On se voit juste avant qu'il parte en Suisse à Davos. Je le vois et en rigolant, je lui tape dans la main. Je dis « Alors, demain, tu es sur le podium ?» Il check et il me dit « Bien sûr ». Et là, tout simplement, il l'a fait, quoi. Il n'a pas seulement dit, il l'a aussi fait. C'est pour dire un peu cette anecdote, pour montrer. C'est vrai que très, très rapidement, il est arrivé. Il était un peu le rookie qui arrivait dans l'équipe et qui allait changer. C'était la domination en France de Vincent Vitoz, le premier champion et le seul champion du monde dans notre discipline. Et Maurice était là, quoi. Donc, pour dire un peu la longévité, il a... commencer les Jeux Olympiques avec une sixième place hein, déjà, et ça c'était à Vancouver en 2010. Et là, eh bien, on est maintenant en 2022 et il y a une médaille parce qu'il n'y avait pas de médaille à l'époque à Vancouver.
Et au-delà du cas de Maurice Magnifica, il y a une vraie tradition du relais maintenant quand même, parce qu'effectivement jusqu'en 2014, il y avait eu seulement la médaille de Roddy d'Aragon à titre individuel pour lui sur le sprint. Et là, ça fait donc les quatre dernières médailles françaises sont en relais, dont trois sur ce relais-ci qu'on a vu aujourd'hui, les trois dernières éditions. Donc c'est quand même beau, je trouve qu'effectivement la France à l'échelle de l'histoire du ski de fond, notamment aux Jeux Olympiques, pèse assez peu, mais dans cette discipline-là, quand on fait trois médailles de suite, ça vous installe quand même un petit peu.
Ouais, c'est une belle histoire et dans cette belle histoire, on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir en 2004. Et en 2004, c'est la première fois qu'un relais français, chez nous, à la Clusaz, arrive et gagne.
Pour nous, c'était de la folie. C'était énorme, de la folie. Et dans ce relais, il y avait un certain Alexandre Rousselet. Il y avait bien sûr Vincent Vitoz qui finissait. Et donc, je dirais, c'est là réellement. Et je fais un petit clin d'œil à mon complice de l'époque, Roberto Gall, qui a énormément amené justement au renouveau de cette équipe de France, au fait qu'on amène le collectif devant. C'est vrai qu'auparavant, dans notre discipline, on était surtout sur, on va dire, des individuels qui arrivaient à performer, des grands individuels. Hein. J'ai en mémoire, bien sûr, Jean-Paul Pirat, Hervé Ballan, les glorieux aînés. Mais ce n'était pas, je dirais, une performance collective où on espérait aller chercher ensemble un titre mondial, voire une médaille mondiale.
Et ça me fait penser un peu, là, je vais faire un parallèle avec l'athlétisme avant que le sprint français avec les 4x100 mètres. Et comment on crée justement quelque chose de collectif? Comment on arrive à faire ça?
C'est comme dans toutes les aventures humaines. C'est une question réellement d'amener toutes les énergies, déjà de le rêver. Et le rêve, je peux vous dire qu'il est présent. C'est un rêve qu'on met en place comme ça et qu'on aide finalement aux plus jeunes à le partager. Maintenant, il est là. Je dirais cette tradition, elle est installée. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui sont en train de regarder, des jeunes fondeurs qui regardent ces images et ça va les marquer. Dans leur tête, c'est possible. Et c'est pour ça que je suis revenu sur cette première fois le relais français à gagner en France, parce que ça a marqué une différence, ça a marqué vraiment le début d'une nouvelle ère. J'ai encore en mémoire les Jeux Olympiques de Vancouver, où on est passé tellement près finalement de cette médaille de bronze. On échoue avec Manu Jaunier, c'est une image qui me marquera toujours, où Manu prend son dossard et le met sur les yeux parce qu'il est quatrième, mais c'était tellement, là encore, on avait rêvé. Et depuis, on y est. Alors, j'ai une grosse pensée pour Manu qui, du reste, amène énormément puisqu'il est en charge de la relève de cette équipe de France. Il est avec les plus jeunes. Ils vont partir bientôt en Norvège au championnat du monde des moins de 23 ans et au championnat du monde junior.
Et la relève, justement, est-ce que Maurice Magnifica sera toujours en leader dans 4 ans ou est-ce qu'il y a des petits jeunes qui vont venir lui prendre sa place? Comment les choses se présentent?
La roue tourne et je dirais que c'est déjà un exploit, hein, ce qu'a réalisé dans les conditions difficiles de sa préparation. Bien, c'est de plus en plus difficile pour Maurice de se préparer et le plus haut niveau de pratique, il ne s'atteint qu'avec des heures et des heures d'entraînement. C'est vrai que cette année, elle va le marquer mentalement. La performance qu'il a réalisée aujourd'hui, il faut aller la chercher avec des ressources que seuls des grands champions ont. Donc là, je suis très admiratif. Hein, c'est vraiment le chef de file et on ne s'y est pas trompé. Hein, tous les athlètes lui ont sauté dans les bras. Je ne sais pas, parce que comme disait Alex hier quand j'ai eu au téléphone, il m'a dit « Voilà, tu vois, mon dernier relayeur, c'est Momo. Allez, coup de poker. » Et souvent, on ajoute « Bon, non, il ne sera plus là. » Et après, on ajoute, oui, mais on ne sait jamais, avec Momo.
Ouais. Bah, écoute, on suivra ça avec attention. Pourquoi pas décrocher une cinquième médaille en 4 Jeux Olympiques différents. Merci, Jeff, d'avoir éclairé nos lanternes sur ce ski de fond et sur ce relais 4 x 10 km. Le chiffre du jour, c'est 4. 4, il concerne Kaylee Humphreys, qui a réalisé les deux meilleurs temps des deux manches de monobob la nuit dernière. Elle sera encore engagée la nuit prochaine pour les deux dernières manches de la discipline. Et pourquoi on vous parle d'elle aujourd'hui? Parce qu'elle peut devenir la première femme à remporter une médaille en bob lors de 4 JO consécutifs. Une performance assez incroyable et même un destin incroyable pour cette bobeuse qui a disputé les 3 précédentes éditions des Jeux Olympiques avec le Canada et qui depuis a migré avec les États-Unis pour une question de harcèlement qu'elle a dénoncé au sein de l'équipe de bob canadienne. Donc voilà, une stat marquante parce qu'on voit bien réussir à durer. On en parlait juste avant avec toi, Jeff. C'est dur de durer dans le temps dans différentes Olympiades. Là, elle peut devenir la première à enchaîner 4 médailles dans 4 JO consécutifs.
Alors moi, je dirais 4 médailles pour un certain Quentin Fillon-Maillet. Ça, c'est plutôt aussi pas mal.
Ça, c'est vrai. Mais là, c'est une seule édition.
Ouais. Et encore, en plus…
Voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur?
C'est vrai, ça.
Le plus dur, je dirais, je ne connais pas assez hein, les critères de la perf sur le bob. J'aurais tendance à dire quand même qu'il doit y avoir un petit peu de trois frayeurs à l'entraînement de temps en temps. Ah ouais. Ça, c'est certain. Voilà, donc moi, je suis impressionné par les vitesses qui sont atteintes. Voilà, j'ai entendu parler de 140 km/h. Moi, à 140 km/h, je préfère être quand même dans ma voiture. C'est clair que voilà.
C'est sûr que quand un fille en maillet, il n'atteint pas les 140. Ouais.
Attention, on n'a pas l'air de rouler au-dessus de 130 hein, en France.
Oui, alors des fois, ça peut arriver sur un malentendu qu'on se trompe. Hein, on se trompe, bien entendu. Non, il ne faut pas le faire, hein, bien sûr. Il faut pas le faire. Mais effectivement, à noter quand même, hein, à noter quand même, parce que ça, souvent, on a tendance à. Alors bien sûr, là, les vitesses sont extrêmement lentes. On a des neiges qui sont les plus lentes qu'on ait jamais eues. Sur les pistes nordiques, ça se voit également hein, sur les pistes de ski alpin, mais il faut savoir quand même que je me souviens sur les descentes qu'on avait sur Sochi, on avait des athlètes qui en technique classique dépassaient les 80 km/h dans la trace. Donc c'est pour donner aussi un ordre d'idée du type de vitesse quand la neige est très glissante qu'on peut effectivement atteindre en ski nordique et là voilà, mais bon, malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui auraient bien aimé atteindre ces vitesses-là sur cette neige.
La neige un peu trop lente cette fois-ci, c'est sûr. On est bon, messieurs. L'heure olympique, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire aussi sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Nous, on se retrouve demain avec, on l'espère, 3 nouvelles médailles. Allez, soyons fous. Je ne sais pas si on arrivera à répéter
une médaille, une médaille d'or, surtout.
Et une médaille d'or, surtout. Ouais, c'est vrai que l'année prochaine, c'est le patinage avec la fin de la danse sur glace pour Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis. On suivra ça avec attention. Merci à tous. À très vite. Salut.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.